parole de jeunes. Votre émission Parole de jeunes sur les ondes de Radio Présence Figeac.
Aujourd'hui dans cette émission, nous recevons Gerline Frey, professeure à l'établissement Jeanne d'Arc Figeac, ainsi que quelques élèves. Ils sont venus évoquer un projet. Bonjour Gerline.
Bonjour.
Pourriez-vous nous dire un petit peu comment se nomme ce projet et nous l'expliquer en quelques mots?
Donc il s'agit de participer au concours national de la résistance et de la déportation 2026.
Ouais.
Le thème portait sur la fin de la Shoah et de l'univers concentrationnaire nazi, avec trois verbes: survivre, témoigner, juger, et un empan chronologique de 1944 à 1948. Donc l'idée était que des élèves de terminale de la spécialité géopolitique s'emparent de ce sujet et créent un projet.
Très bien.
Donc pour rentrer un petit peu plus dans le détail, c'est un projet qui tient à cœur des quelques élèves de géopolitique, parce que la ville de Figeac a été grandement marquée par les événements de la Seconde Guerre mondiale, et en particulier ceux de l'année 1944. La rafle du 12 mai 1944, est, bien que ce ne soit pas une rafle non, enfin, raciale, ça n'entre pas dans le sujet du concours par rapport à la fin de la Shoah. Mais par contre, il y a eu l'univers concentrationnaire nazi qui a été connu par près de 430 personnes, 135 qui ne reviennent pas parmi les Figeacois. Et donc les souffrances physiques et morales, les absences parfois définitives, ont construit la mémoire collective du Figeacois. Et l'idée face à ce sujet était effectivement de s'emparer des objets que les élèves ont pu observer au musée de la Résistance, dans la rue droite à Figeac, et puis également ils ont rencontré l'archiviste municipal.
Très bien.
En fait, la problématique, c'était que on fait face à la disparition inéluctable des témoins directs de cette période. Et donc, on avait à cœur, avec le petit groupe, hein, ils étaient neuf terminales seulement, donc on avait à cœur de faire parler quand même les objets, de transmettre quelque chose, d'être un maillon de transmission. Et l'objectif, moi, en tant que prof, c'était aussi de faire la distinction entre histoire et mémoire. Donc de les faire travailler avec des historiens, avec des professionnels de l'histoire. Hein, l'archiviste Monsieur Galinon a été pour cela un élément fort, une rencontre forte. Donc de faire la distinction entre les historiens, le travail d'historien, des sources, à partir de sources, et puis les mémoires, quoi, hein, qui sont très plastiques, en fait, qui très plurielles, les souvenirs qui peuvent différer. Et ça, c'est vrai que dans l'enseignement des spécialités histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, on confronte, hein, les sources de l'historien, la pluralité plastique des souvenirs, des témoignages, dans une approche très scientifique. Et enfin, les trois verbes nous ont aussi beaucoup interpellés. Survivre après la déportation, l'enfer du camp nazi, la déshumanisation, le sentiment cruel d'échapper à la mort quand tant d'autres ont disparu, le retour douloureux, difficile dans la vie normale entre guillemets à Figeac, la volonté de taire parfois pour se reconstruire, et en fait un impossible oubli. Donc survivre nous a beaucoup touchés en tant que Figeacois. Témoigner, bien sûr, est aussi un verbe important, avoir la force de le faire, hein, de témoigner. Souvent, bien longtemps après, on a vu que il y avait une génération au moins qui passait. La force de témoigner, de le faire tout haut, de dire l'indicible, d'écrire l'impensable, même après l'avoir tué à ses proches pour les préserver, pour espérer l'effacer. Donc il y a cette idée de survivre pour témoigner, et de témoigner pour survivre également. Et le troisième verbe, juger, hein, témoigner, c'est aussi pour juger dans un état de droit, alors qu'il a été nié pendant toutes ces années. Juger pour réhumaniser les victimes et permettre aux descendants de vivre, de survivre à leur tour.
Et nous écouterons aussi des témoignages.
Voilà, donc l'idée là, les témoignages, c'est les élèves qui mettent en voie des objets qui ont connu cet univers concentrationnaire, qui illustrent le survivre, le témoigner et le juger. Donc l'histoire par les objets, hein, c'est un renouveau historiographique très fort en ce moment.
Très bien, donc Géraldine, si vous le voulez bien, nous écoutons maintenant tout de suite donc, les groupes d'élèves avec survivre, témoigner, juger et puis deux témoignages.
Donc pour survivre, l'objet qui va parler est la tenue rayée que Augustin Soto, un ancien officier d'artillerie républicain espagnol réfugié à Figeac, qui a été déporté lors de la rafle du 12 mai 1944 à Dachau, donc que Augustin Soto il a fait don de cette tenue rayée de déporté au musée. Et les élèves ont rencontré Louis Soto, le fils donc d'Augustin Soto, pour échanger sur son parcours. Voilà, la tenue rayée de Augustin Soto raconte.
Eh bien, on écoute.
74 272, si l'on devait m'identifier, ce serait par cette immatriculation. Nous étions autant d'uniformes similaires qu'il y avait de détenus là-bas à Dachau. Je ne me souviens plus de mon année de fabrication, mais je sais en revanche avoir été créé dans le camp lui-même, par un commando de travaux forcés. De même, je ne me rappelle plus de mes plus anciens propriétaires, ceux qui s'étaient éteints avant. Mais ma mémoire des derniers mois dans le camp se montre déjà plus nette. C'est en juin 1944 que je fis la rencontre de mon dernier porteur. Au début, je ne savais pas grand-chose sur lui, mais j'ai pu deviner grâce au triangle rouge, celui que l'on m'avait cousu, celui avec lequel ils avaient été déshumanisés, celui du prisonnier politique. D'ailleurs, l'abréviation SP, marquée sur ce même triangle, signifiait qu'il était espagnol, donc Spanish en allemand. Aussi, j'avais bien reconnu l'accent venant du sud de l'Europe. En fait, j'appris bien plus tard qu'il avait servi dans des forces républicaines pendant la guerre civile espagnole, avant de fuir pour la France et de participer vivement à la résistance intérieure. Il fit ensuite partie des centaines de raflés figeacois du 12 mai 1944 et déporté pour Dachau. J'ai fait corps avec lui, quand d'autres, ses amis, partaient à Ravensbrück ou Bergen-Belsen.
Dans le camp, il a reçu l'aide de prisonniers communistes allemands, notamment son capot. Je me souviens aussi de sa rencontre avec Edmond Michelet, une voix forte avec l'accent du sud de la France, qu'il a assuré de l'aider à obtenir la nationalité française et à son retour. Je partageais aussi sa volonté de survivre. Mon premier porteur a toujours pris soin de moi. J'étais devenu son bien le plus précieux. Je cachais son intimité, les seuls restes de son humanité. Je le protégeais du froid comme du soleil. Dans les rares moments de pause, je l'observais écrire des lettres. Cela prenait du temps, car elles devaient être traduites en allemand pour passer la barrière cruelle de la censure. Son cauchemar a pris fin en avril 1945 à la libération du camp par les Américains. Lors de sa pesée, on lui a annoncé 32 kilos. Le corps d'un enfant, mais qu'importe, car il avait survécu, et un peu grâce à moi. Malgré les traumatismes subis, il m'a emmené avec lui jusqu'à Figeac et m'a précieusement conservé comme preuve de sa survie. Bien plus tard, j'ai été retrouvé par sa petite fille de 9 ans, qui, d'ailleurs, eut du mal à m'enfiler. Par la suite, ses deux fils m'ont donné au musée de la résistance et de la déportation à Figeac pour témoigner. Depuis la victime ou confortablement installé, je coule des jours plus tranquilles.
On poursuit avec quel verbe, Géraldine ?
Alors maintenant, c'est le verbe témoigner qui est mis en avant. Les objets racontent, donc témoignent à leur tour. Donc les élèves ont rencontré Pierre Estanteau. Son père, Raymond Estanteau, est arrêté lors de la rafle du 12 mai 1944 à Figeac. Il est mort en déportation dans le camp de Bergen-Belsen en novembre 1944. Et sa famille, donc Pierre, son plus jeune, a conservé des lettres que Raymond Estanteau a écrites depuis les différents camps par lesquels il est passé. Et il a aussi, Pierre Estanto, donc son fils, nous a remis des documents juridiques établis ensuite plus tard pour l'obtention d'une pension de veuve de guerre. Donc le premier objet qui parle et qui témoigne, donc, ce sont deux lettres traduites en français, issues des archives familiales de Pierre Estanto. Donc Raymond Estanto écrit à sa famille depuis les camps des lettres à sa femme Jeanne, donc, et surtout des lettres qui sont traduites en allemand parce qu'il fallait, éviter la censure, en fait.
Merci, nous écoutons.
Je suis ce papier jauni, usé, froissé. Je suis plus qu'un courrier. Un morceau de Raymond Estanto, plombier à Figeac, devenu le matricule 33253. Je suis la lettre, le premier témoin de sa chute, en juin 1944. J'entends son souffle, court, et sur ma surface, le tracé rythmé de celui qui écrit et traduit en allemand, sous la dictée. Tout se passe dans un baraquement de Nuengam, qui sent la faim et la peur. Les doigts tremblent, il faut se dépêcher. Le désespoir et la douceur des propos, comme si Raymond caressait la joue de Jeanne. Sa femme, restée là-bas. Je vois son regard s'égarer entre les barbelés. Je vois ses lèvres, gercées, s'ouvrir pour murmurer des mots qu'il n'ose pas toujours confier à l'encre. Il me demande de réclamer de l'argent, du pain, du tabac de son propre jardin. Mais ce qu'il veut vraiment, c'est que je transporte son âme hors de cette cage de fer. Bien qu'au début de l'été, je ressens le froid de Hambourg qui pénètre ses os à travers moi. Sa plume gratte ma peau de papier, dessinant des mots de survie, des mots de tendresse.
Mais entre les lignes, je ressens l'ombre qui s'allonge, la terreur qu'il cache, la peur que ce soit la dernière fois qu'il signe son propre nom. Salue toutes nos connaissances chaleureusement, n'oublie pas les enfants. Dit ma voisine, la lettre envoyée de Bergen-Belsen. Il le répète comme une prière, une supplication jetée à la face du monde. Nous sommes la dépositaire de son dernier espoir. La preuve qu'il a existé, qu'il a aimé, qu'il a été un homme avant de devenir une ombre et de disparaître à Bergen-Belsen en novembre 1944. Nous ne sommes pas de simples courriers, car il a fallu trouver une aide pour nous traduire auprès de Jeanne. J'ai senti sa frustration quand elle caressait ma surface de papier. Les mots de Raymond, mais écrits par un autre dans une langue inconnue et honnie. Nous sommes un témoignage qui refuse de se taire et qui crie que Raymond n'est pas une statistique. Un numéro déshumanisé par le timbre collé au recto et les coups des tampons administratifs en noir et en rouge. Je vous oblige à le regarder, à l'écouter. Témoigner, c'est refuser l'oubli et se redonner un visage à ceux que l'on a voulu effacer.
Géraldine, on poursuit là encore avec sur la thématique du témoignage.
Donc, suite des archives de Pierre Estanto, celles qu'il nous a confiées, donc avec ce dossier, cette fois, c'est un dossier qui montre le double combat de sa mère, Jeanne, pour surmonter d'une part la perte de son époux et d'autre part chercher à obtenir une reconnaissance de l'État, avec des extraits du dossier administratif témoignant de sa longue démarche. Donc, voici des attestations. Certificat d'un faux engagement au maquis de Raymond Estanto, qui sont rédigés, des attestations rédigées par des vrais chefs résistants du Figeacois pour soutenir la veuve Estanto et obtenir une pension de veuve de guerre. Voici ces attestations qui racontent.
On écoute.
5 ans. 5 ans, c'est le nombre d'années qui se sont écoulées pour que la famille Estanto soit entendue. Mais pour cela, Madame Jeanne Estanto a eu besoin de mon aide. Je suis le faux témoignage de Henri VII, chef des maquis du Lot et détenteur de la Légion d'honneur, médaillé de la Résistance. Il me faut vous raconter le contexte de ma création. Je suis né comme un dernier recours, pour plaider en faveur de la famille de Raymond Estanto. Pour survivre à sa disparition tragique à Bergen-Belsen, elle a sollicité des aides de l'État, mais ses demandes ont toujours été refusées. Il fallait bien alors trouver une solution, témoigner en arrangeant la réalité, pour surmonter l'absence et survivre. Raymond Estanto est arrêté lors de la rafle de Figeac le 12 mai 1944 et déporté au camp concentrationnaire de Bergen-Belsen. Il n'est jamais revenu, laissant derrière lui sa femme, Jeanne, et leurs quatre enfants, dont un bébé Pierre de quelques mois. Après l'annonce de la libération, Jeanne Estanto a attendu pendant des jours le retour de Raymond sur le quai de la gare de Figeac avec des dizaines d'autres familles. Un espoir qui se fissurait chaque après-midi un peu plus, jusqu'à la lettre tragique témoignant de la mort de son époux. Un autre combat commence alors pour Jeanne, faire vivre sa famille sans personne en âge de travailler et avec à sa charge quatre enfants. Pour survivre, il lui faut bénéficier des aides de l'État. Raymond Estanto était plombier à Figeac, ni collabo, ni résistant. Il obtient, à titre posthume, le statut de déporté, mais sans engagement dans les maquis, et donc, du point de vue juridique, pas d'indemnité à la famille. Dans cette après-guerre, la reconstruction nationale passait par les résistants, qui seuls recevaient les honneurs. Les autres étaient invisibilisés. C'est pour faire exister la famille Estanto que j'ai été créée. Après deux dossiers pour des aides qui ont été refusées, j'ai permis de valider la troisième.
Je me souviens de la discussion tendue et de la voix tremblante d'Henri Vessette, avant de sentir les coups rythmés, des caractères ancrés qui s'enfonçaient sur moi. Ce bruit de machine à écrire étouffait le sentiment d'abandon de Jeanne. Si Raymond n'est pas considéré d'abord comme mort pour la France, il a bien été victime des circonstances, et j'en témoigne pour soutenir Jeanne et survivre après sa disparition. D'autres attestations, mes voisines ont suivi. Des résistants responsables des VENI et des FTPF du Maquis, Humbert notamment. D'une certaine façon, la famille Estanto a été écoutée, grâce à moi, malgré plusieurs procédures pour en arriver là. Et bien que faux, je témoigne pour toujours de la mort de Raymond Estanto, de la cruauté de sa disparition, plus généralement d'une société déstructurée, qui tente de se reconstruire, par à-coup. Je vis désormais dans une enveloppe, très précieuse malgré son apparence banale, et mes voisines sont les lettres écrites en allemand, censure oblige, par Raymond Estanto à sa famille. Elles sont tout aussi précieuses que moi. Elles rétablissent l'humanité par le courage, la fraternité et l'amour familial, contenus dans les mots tracés au crayon de papier, les mêmes que ceux incrustés et ancrés en moi. Survivre pour témoigner, témoigner pour survivre, juger de mon importance.
Et pour terminer, Géraldine, le troisième verbe, juger.
Les objets racontent juger, donc, avec une rencontre avec Christophe Galinon, l'archiviste municipal, il a présenté aux élèves dans la salle du conseil municipal de Figeac le parcours et le jugement de Paul Leroy, dit Hercule, contributeur direct de la rafle du 12 mai 44 à Figeac, qui est à l'origine de centaines de déportations et des 135 morts figeacois dans les camps. Il n'est pas le seul traître, mais il en est un maillon important. Et donc, à partir des archives, donc, l'acte de sentence, l'acte de décès, toute la procédure judiciaire, y compris une lettre du procureur, ce dossier de la procédure à l'encontre de Paul Leroy raconte.
On écoute, merci.
Au fond d'une boîte d'archives dans le noir, nous sommes les feuillets du procès-verbal de Hector Paul Leroy, né en 1924 à Douai, dans le nord de la France. Nous nous rappelons des chatouillés de la plume et de l'imprégnation de l'encre. J'avais dû rapporter les faits reprochés et les événements qui ont conduit à son jugement.
Les mots tracés racontent que, très jeune, vers l'âge de 19 ans, il arrive dans la région du Lot alors que la guerre a éclaté. Pour une raison qui nous échappe, le roi se présente comme souhaitant rejoindre les maquis et lutter contre l'occupant. Nous témoignons, même dans le noir, de la confiance qu'il a gagnée auprès de membres de la résistance locale. Il a fréquenté des maquisards et les familles qui les soutiennent leur fournissant nourriture, cachettes, informations. Il est parvenu à recueillir des noms de résistants, des lieux où ils se cachent, où ils se réunissent, des réseaux de ravitaillement qui les aident à survivre. Nous sommes la mémoire de ses appels téléphoniques à la commande en tour. Ces renseignements, presque quotidiens, vont contribuer à la grande rafle de mai 1944 à Figeac. des centaines d'arrestations, de déportations dans les camps allemands, l'univers concentrationnaire des historiens.
Nous sommes la pierre angulaire, le document indispensable pour juger le roi, qui a tenté de disparaître et d'échapper à la justice. Quand on nous sort de la boîte d'archives, nous pouvons dire que le roi est par hasard reconnu dans un cinéma à Dijon, le 5 décembre 1944. Arrêté par les autorités, il est ramené dans le département du Lot, à Cahors, afin d'être jugé le 26 juin 1945. Nous sommes les feuillets de l'acte de sentence racontant que la cour de justice l'a condamné à mort, pour trahison et pour avoir dénoncé des membres de la résistance. Ces feuillets devraient être destinés à être gardés en guise de réparation, puisqu'il affirme avoir non senti l'encre de la plume, mais celle de la machine à écrire qui semblait taper sur le papier. L'immense colère de la foule, les articles de presse, nos collègues racontent qu'à la sortie, les forces de l'ordre ont dû intervenir rapidement pour éviter qu'il ne soit lynché sur la place.
Beaucoup de personnes présentes ont perdu un proche en déportation ou ont été arrêtées et torturées à la suite de ces dénonciations. Tous s'appuient sur nous pour réclamer une justice immédiate, une justice populaire. Placé provisoirement dans les caves du tribunal de Cahors, Paul Leroy est finalement fusillé 2 jours après son procès, le 28 juillet 1945, à 6h30, à Cahors, en présence de témoins issus de la résistance locale. Notre charge, à nous, les écrits de la justice, est de conserver la mémoire de l'état de droit qui s'est rétabli à la fin des années 1940. Nous prouvons, procès-verbaux, actes de sentence, articles de presse aux archives départementales ou ailleurs. Nous prouvons la nécessité et l'enjeu mémoriel de la conservation pour construire, dans les valeurs républicaines, un avenir national apaisé.
Retour au studio avec Géraldine. Une petite question pour terminer. Qu'est-ce qu'ont pensé les élèves de tout ça ?
Alors, appréhender l'histoire, hein, surtout l'histoire locale, en faisant parler les objets, leur a permis de donner vie, de donner corps en fait à ce passé, pas si lointain finalement. Leur rencontre avec des descendants de victimes, avec des professionnels de l'histoire, ont montré le travail nécessaire des historiens, la diversité de leurs sources, les difficultés aussi à analyser des témoignages indirects, et toute la charge émotionnelle des objets qui nous racontent le passé, mais pour vivre le présent, quoi, en fait. Hein. Ce travail les a rapprochés, hein, il les a inspirés, un peu comme une leçon citoyenne, grandeur nature, bien utile en 2026.
Très bien. Merci beaucoup, Géraldine.
Merci.
C'était votre émission Parole de jeunes sur les ondes de votre radio chrétienne de proximité.